information, la chaîne de valeur. Et le problème, c'est que les services nouvelles sont moins rentables. En même temps que nous devons faire des grands investissements, la rémunération n'est pas garantie. Je vais dire ce sujet. Et aussi, c'est un secteur qui est maintenant globalisé. Donc, l'éducation de la politique sont également nationale, européenne et globale. Donc, si le secteur est changé, s'il y a de la concurrence, beaucoup de nouveaux services, pourquoi les politiciens s'intéressent pendant ce secteur? Et pourquoi les politiciens européens s'intéressent pendant ce secteur? Je dirais que le point de départ, c'est toujours le marché unique. Il y a quatre ou plus thèmes principaux, éléments principaux dans les thèmes politiques. Donc, ça commence avec l'économie, parce que les politiciens européens comprennent bien que le secteur est important lui-même. Nous avons un chiffre d'affaires de plus de 300 milliards d'euros en Europe. Mais le secteur aussi fait une contribution très importante à la croissance et à la compétitivité d'autres entreprises. Et on estime qu'au niveau européen, le secteur TIC, donc IT et Telecom, est responsable pour 50% de la croissance, de la compétitivité portée dans l'économie pendant les années passées. Donc, c'est un secteur stratégique. Il y a aussi maintenant beaucoup d'intérêt dans les opportunités pour les tickets verts, donc la contribution au débat du change du climat, parce que le secteur peut faire une contribution importante à réduire la consommation de l'énergie, par exemple, dans le transport. Mais en même temps, le secteur ICT est responsable pour 2% des émissions globales, donc c'est le même que l'aviation. Donc nous avons aussi notre vraie responsabilité et la Commission a récemment proposé quelques recommandations pour consommer moins d'énergie dans le secteur. Et comme j'ai déjà dit, l'Europe dans le monde, la Commission en particulier, a un rôle très important pour représenter l'Europe et les intérêts européens dans le monde. L'Internet n'est pas un réseau des individus, c'est un réseau qui est gouverné par un organisme, ICANN, qui était dominé par les États-Unis. Maintenant, la Commission essaie de donner une voix européenne. Et les États membres et d'autres pays veulent aussi intervenir dans ce débat. Et il faut trouver un juste équilibre aussi, parce que c'est important que les citoyens, pour la démocratie, que l'Internet n'est pas seulement l'espace des Américains. Mais si tous les États et les gouvernements s'interviennent, il y a aussi des questions de la démocratie. Parce que la Chine, par exemple, a une politique d'Internet qui n'est pas du tout la même que le nôtre. Donc, je voudrais maintenant parler en un peu plus détail à propos de la législation, le cadre réglementaire des télécoms. Je crois que Marc a déjà expliqué quelques détails. Il y a en effet trois vagues de législation, trois tranches de législation des télécoms. La première a commencé pendant les années 90 avec la présidence de Jacques Delors. Et puis on a en effet aboli le principal monopole. On a aboli les monopoles. En même temps, on Et puis le secteur a changé et donc il faut réformer la législation. Et les consultations sont commencées déjà en 1998. Il y a eu deux consultations, puis les propositions de la législation. C'était finalement adopté en 2002 et mis en force un an plus tard, donc une période de 5 ans. Et maintenant, on est en train de réformer le cadre réglementaire. Et comme Marc a déjà dit, il y a un paquet de télécoms qui est presque fini, mais pas encore. Et je voudrais donner un exemple très spécifique de l'impact de la réforme et de la législation et la réglementation sur le secteur. Et c'est ce qui concerne les nouveaux réseaux d'accès. Donc, ça c'est une image typique de où on est aujourd'hui. On a déjà les services haut débit, les services vocaux sur Internet, BT Vision, c'est un service de vidéo sur Internet, et BBC iPlayer. C'est possible maintenant en Grande-Bretagne de voir presque tous les programmes télévisés sur Internet avec la même qualité. Mais ça se passe sur un réseau vieux, un réseau en cuivre, et on se passe déjà les limites. Et tous les opérateurs commencent à installer des nouveaux réseaux d'accès en fibre optique. Le problème, c'est que si à droite, on sait bien qu'il y a des services qui sont peut-être intéressants pour les consommateurs. Mais ce n'est vraiment pas clair si les consommateurs veulent les acheter, payer. Donc le High Definition Television, on peut le regarder déjà sur le service qu'on a déjà. Il y a ceux qui disent qu'il ne vaut pas la peine d'installer des nouvelles infrastructures parce qu'on peut faire plus avec le vieux infrastructure. Et ce sont des autres qui disent non, au contraire, il n'y a pas de demande pour des services nouvelles parce qu'ils n'existent pas encore. Donc, nous comme société, nous voulons installer une nouvelle infrastructure. Je vais citer le président de l'autorité réglementaire en France, qui a dit que c'est le grand enjeu des 10 prochaines années. Le débit sera quasiment infini. Les échanges d'informations classifieront plus vite, pourront être complétés par des données de toute nature. Ça va développer le télétravail, modifier l'enseignement, le médecin, le commerce entre les entreprises. Comme cela avait était le cas à la belle époque, suite au développement des chemins de fer, c'est donc essentiel. Alors, c'est essentiel. Mais, quels sont les défis? Donc, pour les politiciens, l'installation des nouvelles réseaux est liée au progrès économique pour établir la société de l'information. Et chaque politicien a peur des league tables, des comparaisons avec les autres pays qui démontrent, par exemple, que la Grande-Bretagne est presque 2 milliards d'euros en compétence, mais ça va donner le service à peut-être 40% de la population. Donc, si on veut construire un réseau de fibre qui couvre toute la nation, ça va coûter peut-être 20 milliards d'euros ou presque 30 milliards d'euros. Donc, des investissements énormes. Donc, pour les politiciens, il y a des questions. Comment encourager les investissements? Mais en même temps, comment trouver un équilibre avec la concurrence? Parce que c'est facile maintenant avec le réseau qui existe, le réseau en cuivre, c'est un monopole. C'est simple pour les autorités réglementaires, ils doivent créer l'accès aux autres et il n'y a pas de concern de l'investissement. Mais avec la fibre optique, est-ce que ça serait un monopole ou pas? En principe, pas. Tout le monde peut investir, le marché est ouvert, donc ce n'est pas un monopole pour France Télécom ou pour British Telecom. Mais, en réalité, s'il coûte entre 2 ou 20 milliards d'euros, il y a une limite. Et probablement, il y aura des infrastructures parallèles dans les cités, comme à Paris, à Londres. Mais pour la plupart des gens, ça resterait un monopole effectif. Et donc, l'autre question pour les politiciens est comment éviter le digital divide, c'est-à-dire la situation quand beaucoup de gens n'ont pas accès aux ressources. Parce que pour nous, en Grande-Bretagne, et c'est le même en France, il y a bien sûr en région environ 30% des citoyens qui ne reçoivent jamais le service fibre parce qu'il ne serait jamais économique pour un investisseur privé. Donc, pour un gouvernement, comment assurer le service à tout le monde? Et, donc, en ce qui concerne les cadres réglementaires, les directives européennes obligent les autorités nationales à suivre quelques objectifs. Ils doivent encourager les investissements efficaces. Mais en même temps, encourager la concurrence. Et donc, il y a une question d'équilibre. Selon les directives, l'autorité est aussi obligée à faire une analyse de marché pour analyser l'état de concurrence, toujours selon les principes dans les directives. Et puis désigner les opérateurs disposant d'une influence significative, toujours suivant les mesures dans les directives. Ils doivent fixer les obligations spécifiques, toujours suivant les principes des directives. Mais ils ont aussi une mesure de discrétion, parce qu'il y a 4 ou 5 obligations principales comme la non-discrimination. Et l'autorité peut décider, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais enfin, l'autorité doit notifier sa proposition, à la commission, et la commission a le pouvoir d'annuler quelques décisions nationales. Donc, il y a un équilibre de balance de pouvoir délégué et du pouvoir central. Et je crois que dans le secteur énergétique, il n'y a pas les mêmes contrôles centraux. Mais c'est très important pour les télécoms. Parce que si nous allons investir dans un réseau, nous voulons savoir quelles seront les obligations aux autres. Quelle sorte de réseau est-ce qu'on veut construire? Parce que la Commission a une perspective française, je dirais, qu'il faut construire un réseau basé sur les plans français, donc ouvrir les passages souterrains pas entre la commission des États membres, des États membres, si la commission vraiment directer le méthode d'investir et l'architecture. Bien. J'ai déjà mentionné les questions de service universel. Si il est seulement comptable d'investir pour 50% de la nation, les gouvernements auront besoin des États pour investir pour les autres. Et enfin, s'il y a un plan numérique en Angleterre, il y a un plan Digital Britain qui s'occupe avec des questions comme ça. Donc finalement, perspective d'analyste, tout cela, la décentralisation est commencée avec le marché unique, autant de Jacques Delors. Et la dernière phase de législation était adoptée pendant la présidence de Prodi, autant du sommet de Lisbonne. C'était une période d'optimisme exceptionnel. Maintenant, sur la paragraphe 1, les premières 5 années, le président Barroso a été accusé d'avoir une direction très libérale. Et je crois que c'est vrai que la Commission continue à poursuivre une direction libérale dans les télécommunications. Le paquet actuel de renforcer le marché unique introduit des nouvelles mesures pour stimuler la concurrence et aussi des nouveaux pouvoirs pour la Commission. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 2000, il y avait un consensus entre les États membres, la Commission, les acteurs privés, qu'il fallait renforcer le marché unique. Mais cette fois, ce n'est pas du tout le cas. Donc, les États membres ne veulent plus d'intégration, les télécommunications. Il ne veut pas donner des pouvoirs à la Commission. On remarque beaucoup de forces protectionnistes dans les États membres. Le Bundeskanzler, Angela Merkel, a même fait une intervention dans le Conseil européen pour insister à quelques mesures pour en effet protéger des opérateurs nationaux. Et c'est aussi frappant que dans le Parlement, très que les députés s'intéressent moins aujourd'hui pour le marché unique. Et c'est un concept qu'on n'entend presque jamais dans les débats. C'est un phénomène qui avance après l'expansion de l'Union, je crois. Il y a un scepticisme. Tout. Et donc, pour le futur, Barroso II, le président a déjà lancé un programme Digital Europe,